L'artiste et enseignante Lynn Millette convie le public à un parcours en voiture à travers une série d'œuvres intrigantes. Inspirée de ses observations et rêveries en bordure de la route, c'est une série d'œuvres titrée Road Trip, présentée à la Maison de la Culture Jeannine Souteau. Et je suis absolument ravie d'être en compagnie de Lynn Millette à son domicile. Bienvenue.
Mais merci, bienvenue à toi. Ça me fait plaisir de parler avec toi de mon travail.
Un plaisir réciproque. Si vous nous présentiez d'abord cette exposition qui est effectivement un véritable road trip.
Oui, justement, c'est un road trip qui est pas très loin de Montréal, par contre. Mais c'est un road trip, c'est un parcours que je fais à l'occasion, une fois l'été, une fois l'hiver. Pour aller par chez nous, regarder le village et faire un tour comme ça, regarder la maison où j'ai grandi.
Dans quel secteur, cet endroit où vous alliez faire un road trip?
Oui. Ben ça, c'est... j'ai habité à Farnham. Et ensuite aussi, je connais bien les alentours comme Sutton, Bromont, Bedford, Gowansville. Il y a aussi Memphrey Magog, ces endroits-là.
On peut comprendre que soyez inspiré par les cantons de l'Est, hein?
Oui, justement, par les cantons de l'Est, effectivement, oui.
C'est magnifique, une magnifique région.
Oui, c'est très beau. Toutes les saisons sont belles. Et il y a les montagnes. Je peux dire que... Il y a beaucoup d'arbres aussi, l'automne, les couleurs. Il y a beaucoup de gens qui vont faire un tour là-bas. Il y a les skieurs l'hiver aussi.
Mais il n'y a pas que de beaux paysages. Hein. Si on observe, si on va visiter votre exposition, il n'y a pas que de beaux paysages. J'avais observé d'autres phénomènes en bordure de route.
Oui, justement, il y a un de mes tableaux qui est intitulé Roadkill, qui est à propos justement des animaux sur la route qui se font frapper. Il y a même des chevreuils, des fois, un petit renard dont j'ai dans une de mes œuvres. Et des ratons laveurs, des choses comme ça.
Des accidents, hein?
Des choses comme ça. Et ça fait vraiment partie de la route de campagne, disons, en territoire ruraux. On rencontre souvent ces petites bêtes-là au cours de la route.
Oui, d'accord. Et puis, vous proposez vraiment une série d'œuvres assez immersives avec des grands formats. Hein?
Oui, j'aime travailler grand parce qu'on perd le contrôle un peu comme artiste et on regagne le contrôle un peu plus tard. Alors, c'est quelque chose qui est un peu comme une aventure. En partant, on commence et ça va bien. Ensuite, en cours de route, parce que c'est grand parfois, on recule, on regarde, on photographie, je regarde mes images sur mon téléphone et ensuite, je retrouve... mon équilibre et ensuite je continue avec les différentes techniques que j'utilise, tout ça, à dessiner par-dessus la peinture avec de la craie de tableau, recommencer des choses, répéter et finalement en bout de ligne c'est fait, c'est accompli. Donc c'est quand même travailler plus grand, c'est vraiment intéressant, je trouve, que de perdre le contrôle. Ouais.
Oui, dans le fond, pour vous, donc l'ampleur du tableau vous permet de laisser libre cours à l'imagination, hein?
Laisser libre cours à l'imagination et à la technique aussi, parce que c'est à la grandeur humaine, si on veut. Donc, on fait vraiment face à quelque chose qui est plus grand que nous, même des fois, et plus large. Alors, faut prendre beaucoup de recul. C'est très physique. C'est vraiment très physique et on s'engage d'une façon assez acharnée. Parfois, ça peut devenir fatigant, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, plus que si je travaillerais en petit format, disons. L'engagement est plus grand.
Très intéressant. Alors, vous avez parlé de que vous utilisez donc la photo comme point de départ. C'est votre début de processus?
Oui, c'est le début de mon processus parce que, justement, au cours de mes petits road trips comme ça, j'utilisais mon téléphone pour photographier tout au long de la route. Et puis, ça donnait des qualités d'image qui étaient parfois embrouillées, parfois très sombres parce que c'est des endroits que j'ai visités Par rapport à mes œuvres, j'en ai fait des randonnées l'automne, j'en ai eu l'été, le printemps surtout, et puis au cours de l'hiver. Alors les images que j'ai au cours de l'hiver sont très très sombres, de gros nuages gris, de la neige aussi qui vole. J'ai utilisé un fond noir parce que ça donne un effet d'ensemble. Quand on a ce noir-là qui soutient tous les couleurs, tout ce qui se passe, et aussi j'ai pu m'en sauver en utilisant le fond noir, disons qu'il y avait des choses qui étaient dans l'ombre que je n'étais même pas obligée de peindre, qu'un simple contour pouvait suffire pour être capable d'exprimer les alentours. J'ai utilisé ça aussi parce que c'est une façon pour moi de parler des éléments dans un tableau qui peuvent être tout simplement détaché dans la noirceur, un peu comme la nuit quand on regarde un paysage, où c'est le noir qui soutient les éléments, les arbres, les maisons, même en ville aussi, on regarde et puis il y a beaucoup de lumière, tout ça, mais quand même, si on regarde dans le fond, dans le ciel, tout se fond dans le noir. Alors en campagne, c'est un peu plus exagéré. Je voulais faire de ces œuvres-là quelque chose qui pouvait parler d'émotions un peu plus sombres, parce que j'ai aussi dans ces images-là laissé des traces de mes souvenirs en combinant différentes choses, différents éléments dans mes paysages. Alors le noir représente aussi pour moi le deuil. Parce qu'en parlant de mon enfance, c'est sûr que en cours de route, j'ai 63 ans, donc j'ai perdu des êtres chers, j'ai eu différentes expériences comme celle où justement j'ai Broekhill, le petit renard qui est sur le bord de la route. Ça me rappelle un peu en voyant cet animal-là en chemin. Ça m'a fait penser ensuite à la mort de ma mère et je me suis surprise à être en train de penser à ça. Donc, c'est quelque chose que j'ai voulu introduire dans mon tableau par en représentant avec différentes lignes contours peintes en blanc sur le noir. J'ai laissé des...
Ma curiosité, qu'est-ce que ça signifie?
Ça signifie, c'est ça, mais j'ai l'œuvre de Jacques-Louis David, le peintre Jacques-Louis David qui a peint La mort de Marat. Alors, on voit un peu la tête de Marat dans le coin d'une des images avec son bras qui pend lorsqu'il est décédé. Alors, il est mort comme ça, c'est comme ça qu'on l'avait trouvé, avec son fameux turban. Il y avait comme un turban, un linge sur la tête. Alors, on voit Marat et on voit aussi un autre tableau de Waterhouse, un groupe de peintres britanniques, et c'est la mort de Ophélie qui est dans l'eau. Sauf que moi...
Oui, c'est un tableau très connu.
Oui, c'est ça. Et moi, Ophélie, plutôt que de la mettre couchée à l'horizontale, elle est debout à la verticale, qui fait contraste, parce qu'en arrière-plan, ce qu'il y a derrière elle, c'est un grand cèdre. Alors, c'est ça. Alors, j'ai mis ces
Donc, vous
images-là.
inspirez de l'histoire de l'art?
Oui, beaucoup. Et avec
En
ça...
utilisant cette craie blanche, ça nous réfère peut-être à votre inspiration pour l'histoire de l'art ou d'autres événements personnels?
Oui, aussi, c'est de la peinture acrylique blanche, mais on dirait que c'est comme de la craie de tableau. Alors, ce qui parle un peu d'alimentation, de chercher, de trouver un peu aussi l'école, parce que les tableaux, la craie blanche sur le tableau noir. Alors, je voulais introduire quelque chose qui était très simple dans ça, mais qui faisait appel à nos souvenirs. Alors, parce que je sais que la plupart de nous, rendus à un certain âge, on se rappelle des souvenirs, des choses comme ça. Mais souvent, en route, en s'en allant chez soi, où on a grandi, c'est sûr que ça vient s'entremêler avec le paysage. On se voit presque sur la rue du village. Je me vois là encore en train de jouer quand je m'arrête devant la maison où j'ai grandi. C'est comme je regarde les lilas. Dans le fond de la cour, et je me rappelle quand j'étais petite d'aller sentir les lilas au mois de mai, ces choses-là. Alors, c'est des beaux souvenirs comme ça, mais j'y voulais Je voulais parler de ce qui se passe à l'intérieur, dans le paysage extérieur. Je voulais vraiment
mettre... C'est intéressant.
Oui, c'est ça. Ça fait affaire avec ce que j'ai étudié à propos de Merleau-Ponty, qui parle énormément du corps physique, que c'est avec le corps que finalement on intériorise tout l'extérieur de notre depuis le début de la vie jusqu'à la fin. On expérience et on se réfère toujours à ces expériences-là, parce que les expériences qu'on a quand on est enfant font vraiment une marque sur l'âme, si on veut, si je peux dire.
Elles sont même déterminantes là, pour certains grands penseurs.
Oui, mais c'est ça. Alors, c'était comme quelque chose qui fallait que je fasse dans mes tableaux. Alors, j'ai conceptualisé mes tableaux en utilisant ça, que je ne voulais pas simplement faire de paysage, malgré que faire un paysage, c'est bien. Mais moi, je voulais un peu pousser mon expression pour être capable de parler plus. Je voulais qu'une simple représentation, mais je voulais raconter une histoire et aussi peut-être toucher les gens de cette façon-là, où je pourrais peut-être leur rappeler eux aussi comment commencer quand on regarde la neige, les premières journées de décembre. Peut-être qu'on n'aime pas l'hiver rendu au mois de mars, mais au mois de décembre, on l'aime beaucoup. Quand la première neige tombe, les souvenirs reviennent, on pense à Noël, tout ça. Alors, c'est ça un peu aussi que je voulais introduire dans mon œuvre.
Oui, c'est comme une mission accomplie parce que on se croirait vraiment, oui, il y a tout l'exotisme du road trip, mais on ressent bien tout à fait la métaphore avec la vie étant une route.
Oh, absolument, oui, je veux dire...
C'est une de vos sources d'inspiration, là, de faire un parallèle entre la route et la vie.
Oui, justement, il y a beaucoup de surprises en route. On part, on ne sait pas au juste où ça va nous mener. Surtout, les gens dans la vingtaine n'ont aucune idée de ce qui va leur arriver. Ils sont aux études, ils pensent à... ou est-ce qu'ils vont continuer, ou jusqu'où vont-ils aller, ou tout ça, ces questions-là. Et puis, je pense que la route est un peu comme ça aussi. C'est on n'a pas le choix, on doit se laisser aller un peu, voir demain ce qui va arriver, la semaine prochaine, l'année prochaine. Et puis, oui, c'est un peu comme ça, c'est une route avec plusieurs courbes.
Se laisser aller, mais et tenter de quand même être attentif à tout ce qu'on peut voir en bordure de route.
Hein? Oh, absolument, oui, oui.
C'est votre cas tout à fait.
Aujourd'hui la fumée d'incendie a jauni le ciel et rougi le soleil. Les étoiles du nord nous rappellent la mort et tu m'appelles encore. Tu dormais sur le banc tandis que je conduisais et j'espère ne jamais arriver. Regarde les étoiles. Tant qu'il y aura des étoiles sur le bord de la route, nous devrons nous arrêter. Tant qu'il y aura il y aura le feu, nous irons peu à peu, été comme hiver, vagabond, millionnaire, amoureux, milliardaire, vagabond, millionnaire, amoureux. Le temps passe et un jour on est vieux et puis seul et rien ne reste plus que la fierté d'avoir aimé correctement ou la honte et les tourments de ne pas avoir compris. Attends, attends, j'ai quelque chose à te dire. Sur le bord de la route, nous pourrons nous arrêter tant qu'il y aura. cette plage du lac Ontario. Millionnaire, amoureux, milliardaire, vagabond. Millionnaire, amoureux.
Vous nous informez que vous êtes une artiste peintre avec plusieurs cordes à votre arc. On va en parler un petit peu plus tard. Mais vous avez aussi une passion pour les arts visuels, mais pour bien d'autres disciplines. Expliquez-nous cet grand intérêt pour cette inspiration multidisciplinaire. Qu'est-ce que ça représente pour vous?
Bien, c'est que on peut pas ignorer la présence d'Internet. Et ce monde qui est complètement sans corps, avec des identités qui peuvent changer, qu'on peut jouer le rôle d'un homme, d'une femme. On a toutes sortes de situations qui se développent en ligne. Je trouve que ça vient changer beaucoup nos vies. Je trouve que la vie, dans la réalité, c'est comme si les choses avaient ralenti un peu. Je trouve que les choses changent moins rapidement des choses...
Au contraire de la vitesse de la technologie?
Au contraire de la technologie, notre existence dans la technologie est beaucoup plus rapide que celle de nos échanges dans la vraie vie, la vie matérielle. Je trouve que les choses, disons comme la musique change, mais la musique utilise d'autres musiques pour faire de la musique. Parce que maintenant, avec toute la technologie électronique, on peut prendre des rythmes de musique, je sais pas moi, des années 80, des années 70, et puis avec ça, entremêler une musique qui est plus fraîche avec ça. Et ça nous donne des échos du passé un peu, je trouve. En mode, je trouve que la mode change beaucoup moins vite maintenant.
Selon vous, il y a beaucoup d'emprunt, mais il y a peut-être moins de créativité?
Il y a plus de répétition, je trouve. Oui. On va chercher dans le passé, plus qu'avant même. Parce que je me rappelle, dans les années 70, on avait des influences de la mode des années 30, on parlait de Bonnie and Clyde, des films comme ça qui nous ont beaucoup influencés sur la mode. Maintenant, on n'a pas tellement d'influence. On a des influences du passé, mais avec un peu moins de fraîcheur, disons comme la longueur de jupe, on s'en fout, on met ce qui nous convient, des choses
oui,
comme ça.
Oui, c'est assez éclaté, oui. On puise un peu dans tout, oui.
Les maquillages, il y en a pour tout le monde, il y a toutes sortes de styles, les coupes de cheveux, la même chose. Mais autrefois, tout le monde s'habillait pareil, on avait des petits gants blancs, on avait des petites chaussures pareilles. Mais maintenant, on dirait qu'on est arrivé dans un monde où on cherche plutôt à se plaire personnellement, de façon individuelle. Et je pense que c'est peut-être lié à Internet, qui est plutôt... là, il y a plus d'activités, les changements sont surtout dans le monde de l'écriture, même si c'est des choses très légères, les blagues qu'on fait en ligne, des choses pour faire rire tout le monde, les multiples chats, les chiens, les...
On reste dans des expériences variées, des réflexions peu approfondies... C'est ce qu'on prouve sur les médias sociaux, c'est ce que vous nous dites. Mais vous, comme tel, je vois ici que dans le cadre de votre démarche ici qui est présentée en peinture, vous épuisez aussi dans bien des disciplines. Par exemple, ici on mentionne la philosophie, la psychologie, la littérature, même on parle de la phénoménologie, l'herméneutique. Ce sont des disciplines qui vous intéressent. Peut-être nous parler de cette influence de ces disciplines dans votre démarche.
OK. Bien, c'est que j'ai étudié, j'ai fait un dernier diplôme à l'Université Concordia dans le département de l'enseignement ou de pédagogie, si vous voulez. J'ai voulu faire un doctorat pour puiser justement sur la créativité humaine. Qu'est-ce que c'est comme phénomène? La façon qu'on crée, pourquoi? Est-ce qu'il y a des étapes dans la création? Est-ce qu'une personne qui est créative en danse est comme la personne créative en peinture ou le scientifique qui est créatif? Comment l'utilise? Est-ce que c'est la même qualité, mais qui se prête à différentes façons de penser, dépendamment de qui on est. Alors, Les choses que j'ai découvertes dans cette recherche-là, c'est l'importance de l'authenticité, mm-hmm. qu'il faut vraiment puiser dans son être. Quand on dit « sois toi-même », c'est vrai. Mm. Surtout quand on fait de l'art, faut être soi-même, faut trouver soi-même, faut porter attention à ses propres pensées, porter attention à certains mots, puis que quand on porte attention aux mots, ça nous donne une image mentale. Cette image mentale-là, finalement, ça peut devenir des ressources importantes en peinture. Surtout parce
et dans,
que...
Et dans le cadre de votre exposition que vous présentez, quelle est la part de ces disciplines dans votre série d'œuvres exposées?
C'est comme tantôt quand je parlais du petit renard sur la route, comme ça, qui s'est fait frapper, c'est que j'ai pu saisir le fait qu'après avoir vu cet animal, je me suis mise à penser à ma mère, avoir perdu ma mère, comment c'était, tout ça. Et puis j'ai réalisé... Je me suis saisie, disons, en train de penser comme ça, à faire le lien avec ma mère. Donc, j'ai voulu mettre cette pensée-là dans mon tableau, dans la composition de l'image et tout lier ça ensemble pour en faire une image plus mystérieuse, disons, que si ces personnages-là n'y étaient pas.
Oh, d'accord, je comprends. Alors, oui. Et vous avez, je pense, en tout cas, par exemple, on peut penser à l'influence de la psychologie, par exemple, pour ce qui est de votre fond noir, ou de ce que vos œuvres peuvent évoquer, faire ressurgir comme émotions, souvenirs. Mm-hmm. C'est peut-être j'imagine que vous avez cette approche-là quand vous utilisez. J'imagine que la psychologie peut vous inspirer peut-être un peu de cette façon.
Oui. Parce que oui, justement, l'œuvre que j'ai avec les camions qui s'appelle Truck Stop, qui est un endroit où les camionneurs vont se ressourcer, parfois dormir même. Il y a des restaurants qui servent ces gens de la route, des repas, il y a des hôtels, il y a des stationnements. Mais il y a aussi certaines cultures d'un fois qu'on aimerait peut-être ignorer. Qui a à faire avec la route. Ce sont
disons-le, de danseuses nues.
Des clubs de danseuses nues, oui, justement. Et puis, donc, j'ai dans un de mes tableaux un stationnement de camions, les grands camions, ce qu'on appelle le 18 roues, hein, qui sont très, très longs. Et puis, ces camions sont, je les ai disposés de dos à nous. Alors, il y a eu comme une espèce de petite neige mouillée au sol, et on voit les traces des camions, les traces des pneus de camion. Et puis, et ensuite, dans cette scène-là, j'ai peint des femmes néons, des femmes qu'on retrouve parfois sur des commerces de danseuses nues, justement. Alors, il y a des petits personnages, des petites dames. Il y en a une qui est sur le haut d'un camion. Une autre qui est au sol, qu'on voit dans l'image qui annonce justement mon exposition. Il y a une des dames comme ça qui est accroupie, le fessier en l'air, et qui a les deux mains sur ses chaussures à talons hauts. Et il y en a une aussi qui est allongée dans la gadoue, si on veut. Alors, c'est simplement une enseigne qui a tombé à plat, mais elles ont l'air lumineuses, justement, parce que c'est noir, et j'ai utilisé des couleurs, justement, pour être capable de faire ressortir la luminosité des néons. Alors, ils sont vraiment illuminés, si vous voulez. Il y a les lumières aussi, les phares des camions, certains phares des camions qu'on voit. Et aussi, il y a une lumière au loin dans le stationnement qui illumine le ciel aussi, puis qui fait luire le métal des camions.
Alors, pour vous, donc, ce sont toutes des ajouts symboliques qui peuvent, à ce moment-là, nous plonger dans notre psychologie personnelle.
Justement, j'en ai fait l'expérience. Je suis allée la semaine dernière à la galerie pour rencontrer les gens et leur demander des impressions. Je suis toujours curieuse de savoir à quoi les gens pensent, est-ce que j'ai bien communiqué mon message. Et puis j'avais un homme, entre autres, qui était devant mon tableau des danseuses, et il m'a dit, bien, moi, je trouve ça vraiment violent, ce tableau-là. Mais pas d'une façon négative, mais il m'a dit, vous savez pourquoi? Il dit, c'est mes sœurs, ça. Il dit, ça, c'était mes sœurs. Alors, c'est ça, c'était comme une culture qui est difficile à regarder, mais pour moi, personnellement, toutes les cultures qu'on a sont importantes parce que c'est notre image en réalité. Parce que la société va toujours avoir des gens sans-abri, va toujours avoir des gens qui sont, comment dire, marginales.
Ouais.
Alors, ça fait partie de notre expérience ici, tout le monde ensemble. Alors, ce sont des choses qu'on doit parfois regarder, analyser, regarder, se regarder parfois aussi même. Donc, c'est là comme message, comme constatation, comme acceptation peut-être aussi, de dire, oui, c'est vraiment là. Et en route, on rencontre des situations semblables. Ouais.
Alors, Madame Lynn Millette, vous êtes donc avant tout artiste peintre. Si vous nous parlez de vous, votre parcours jusqu'à présent, êtes-vous avant tout peintre? Ou vous avez d'autres cordes à votre arc?
Eh bien, je suis avant tout peintre, mais aussi en étant enseignante, je touche un peu les arts médiatiques. Ça, c'est quelque chose aussi que je pratique beaucoup avec la technologie pour bâtir mes images avant de les peindre. Alors, je peux dire que oui, j'utilise la technologie à ce point-là. Et puis aussi, j'écris parce que j'écris mes idées, alors j'écris quand même assez souvent pour être capable de bien, comment dire, rassembler mes idées, de pas oublier mes idées justement, parce que des idées, ça se perd, c'est comme des nuages,
oui.
C'est ce que je dis à mes étudiants, écrivez toujours vos idées, le lendemain, c'est tout parti. Alors, oui, puis pour ce qui en est du reste, j'ai commencé tout jeune à dessiner. Et puis, j'avais pas de cours de dessin comme à Farnham. Il y avait pas vraiment, on n'avait pas beaucoup recours à des choses vraiment avancées, développées. Alors, je me suis apprise moi-même à dessiner, simplement par amour, parce que j'aimais ça. Puis aussi en campagne, c'est plutôt ennuyeux, alors je m'amusais à faire mes dessins. Finalement, j'ai commencé à faire de la peinture, et puis...
Est-ce qui vous a orienté vers les études avancées, à un niveau avancé? Vous avez un doctorat?
C'est ça, j'ai un doctorat, oui.
Écoutez, mais, dans quel domaine, votre doctorat?
C'est en éducation, mais c'est à propos de la créativité. Alors, tout le temps que j'ai fait mon doctorat, je continuais à faire de la peinture, comme toujours. Et puis, j'étais remplaçante au Collège Dawson. Alors, je continuais à développer mes images. Et en bout de ligne, je devais pas avoir une exposition à la fin de mon doctorat, en terminant mon diplôme. Mais on m'a demandé, finalement, sur mon jury, on avait un professeur en art visuel à Concordia, Janet Warner, c'est une très bonne, excellente peintre même, qui m'a fait passer. Alors, elle était sur mon jury, j'ai passé comme artiste. Alors, j'ai accompli mon diplôme pour la première fois à Concordia, qu'on accordait un diplôme à quelqu'un qui faisait un doctorat en éducation, avec... qui faisait de l'art et avec aussi le nécessaire, la thèse nécessaire pour faire une recherche intellectuelle.
Alors oui, vous avez quelques expositions à votre actif, solo, de groupe?
Plutôt solo. J'en ai fait peut-être deux de groupe avec des professeurs, mais c'est quand même agréable, mais... Vu que j'enseigne, disons, ça me prend à peu près 5 ans avant de développer un corpus assez intéressant pour me trouver une exposition.
Alors, donc, vous avez préparé des expositions aux 5 ans?
À peu près, oui, c'est ça. Ça me demande à peu près 5 étés. Et puis mes journées de congé au cours des sessions pour être capable de faire quelque chose qui en vaut la peine, pour dire.
Donc, il faut d'autant plus ne pas manquer cette exposition de Lynn Millet, qui est l'aboutissement de 5 ans de travail, et peut-être nous informer en terminant les matières que vous enseignez à vos élèves au Collège d'Assun. Hein?
C'est ça, j'enseigne la peinture, le dessin, j'enseigne aussi à des étudiants en photo, et puis j'enseigne le design aussi, design intérieur. Et puis aussi dans le studio arts, qui est une discipline qui est plus variée, disons, que juste les arts visuels. Alors, dans ce programme-là, il y a les arts, les lettres et le cinéma également.
Alors, merci, Madame Lynn Millet. Merci beaucoup de cette entrevue vraiment fascinante à la maison. Merci. Et une exposition titrée Road Trip qu'on ne peut pas manquer, qui se poursuit jusqu'à quelle date?
Jusqu'au 20 avril. J'aime bien passer un peu de temps à la galerie, alors j'y vais les samedis, à peu près de 1h30 à 3h l'après-midi pour rencontrer les gens. J'aime savoir, avoir leur impression et parler avec eux. Souvent, il y a des gens aussi qui font de l'art, ça m'intéresse, et même les gens qui en font pas, des mères avec les enfants, toutes sortes de gens, et j'adore avoir leur impression, et c'est vraiment agréable. Oui.
Donc, on va pouvoir vous rencontrer tous les samedis à ces heures-là, d'une 1h30 à 3h30, jusqu'à la fin de votre expo?
Probablement, oui, jusqu'à la fin de mon expo.
Une bonne nouvelle. Merci, et on vous suit de près.
Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir.